RFI.
Atelier des médias.
Cédric Calongi.
Philippe Touve. Mondoblog. Des blogs et des blogueurs.
Mondoblog, c'est l'actualité des blogs et des blogueurs francophones et tous les trucs des meilleurs blogueurs chaque semaine. Mondoblog dans l'atelier des médias avec Cédric Calongi. Bonjour Cédric.
Bonjour Philippe.
Cédric, toujours à Lons-le-Saunier dans l'est de la France, mais qui par la magie des ondes est avec nous. On commence avec ce qui a retenu ton attention sur les blogs cette semaine, et d'abord une affaire qui vient relancer le débat sur la liberté d'expression et le droit à l'anonymat sur Internet.
Attention aux blogueurs d'anonymes, Philippe, on en parlait dans une de nos émissions, blogueur anonyme ou pas, eh bien, c'est la question qui vient de se reposer, comme tu disais, on n'est pas toujours à l'abri comme on le pense. Blogueur, la plateforme de blog du géant Google, va devoir révéler à la justice l'identité d'un blogueur jusqu'ici anonyme, et c'est dans le cadre d'une plainte déposée pour diffamation devant un tribunal de Manhattan aux États-Unis. Eh bien, cette affaire est la conséquence d'une plainte déposée par un mannequin canadien contre un blogueur qui a tenu des propos pas très sympas à son sujet. Il est allé jusqu'à la traiter de vieille peau, de traînée ou encore de malade mentale. Le blog est fermé depuis le mois de mars dernier, mais la procédure judiciaire a suivi son cours.
Autre sujet, c'est LinkedIn qui publie des chiffres sur le nombre d'utilisateurs de ce réseau.
Ils sont 45 millions de membres à publier leur profil sur ce site, qui est un réseau social mais professionnel, hein, qui permet de publier son CV, ses compétences et de se connecter à d'autres personnes. Et c'est un réseau qui peut être comparé à Facebook, à l'exception juste qu'il est un peu plus orienté professionnel, compte 11 millions de membres en Europe, dont 850 000 en France.
Et puis tu voulais nous dire un mot aussi de cette nouvelle plateforme africaine de blog qu'on a évoquée tout à l'heure dans la toute première partie de l'atelier des médias.
Et c'est Maneno, Maneno qui veut dire mot en swahili, et c'est le nom de cette plateforme hein, de blog africain. Et dans un article que j'ai lu sur le site Africa 2.0, cette plateforme qui est multilingue et qui dit vouloir valoriser les langues africaines qui ne sont pas présentes sur Internet est présentée à travers une sorte de portrait interview d'une des fondatrices qui est espagnole, mais qui est apparemment amoureuse de l'Afrique.
Les liens vers toutes ces infos sont sur le site de l'Atelier des médias.
RFI. Digital Journalism.
D'un seul geste, je publie ma petite chronique locale et je deviens mon petit média.
L'Atelier des médias. Cédric Calongi. Philippe Couve. Mondo Blog.
On parle de mémoire aujourd'hui dans Mondoblog, de mémoire et d'histoire. Nous allons voir comment les blogs et Internet peuvent contribuer à enrichir la mémoire et compléter l'histoire, notamment sur le continent africain. Bonjour Abdoulaye Ba.
Bonjour Philippe.
Vous êtes membre de l'Atelier des médias, on vous a déjà entendu dans l'émission. Vous vous trouvez actuellement à Nice et vous nous aviez parlé hors antenne la dernière fois d'un sujet qui vous tient à cœur. Il s'agit du mémorial du camp Boiro qui concerne votre pays, la Guinée. De quoi s'agit-il, Abdoulaye ?
Effectivement, Philippe, je suis blogueur et je me trouve à Nice. En particulier, je suis avec Global Voices. Le mémorial Camp Boiro, c'est une initiative d'un professeur d'histoire qui se trouve aux États-Unis et qui cherche à fixer sur le virtuel des souvenirs douloureux de notre pays qu'il aurait été difficile de fixer autrement. Parce que, comme vous savez, Philippe, créer un musée en Afrique, c'est très difficile, d'abord pour des raisons politiques, ensuite pour des raisons financières. Or, sur le virtuel, on peut recréer un mémoire avec toutes les informations concernant l'endroit où tant de milliers de Guinéens ont souffert, c'est-à-dire le camp Boiro, et y mettre toutes les publications et toutes les opinions que les gens ont. Donc nous avons le mémorial camp Boiro qui est géré par le professeur Tcherno, et nous avons aussi le forum de discussion camp Boiro de l'association des victimes du camp Boiro.
Alors, Abdoulaye, justement, le professeur Tcherno est en ligne avec nous aux États-Unis. Bonjour.
Bonjour, comment allez-vous ?
Bien. Pour qu'on comprenne bien, c'était quoi le Camboiro?
Le Camboiro est un univers concentrationnaire créé sous la Première République guinéenne, sous le régime de Sékou Touré, en 1960. Et il a servi d'univers concentrationnaire et de répression contre les cibles politiques du premier régime. Et de 1960 à 1984, à la date de la mort et de l'effondrement du régime de Sékou Touré, on estime qu'il y a eu plus de 50 000 victimes, soit mortes, soit qui ont survécu avec des traumas incroyables.
Alors parmi les survivants, justement, nous avons fouillé dans les archives de RFI et nous avons retrouvé ce témoignage d'une rescapée du Camboiro, Fatou Condé, qui était interrogée sur RFI en 1984.
Franchement, je ne m'attendais pas à une arrestation avec ce régime, car j'avais tout donné pour ce régime. J'avais sacrifié et mes journées et ma vie entière aux activités féminines. Et j'avais cru que jamais, en tout cas avec ce régime, le chef d'État qui était à l'époque, le président Ahmed Sékou Touré, ne pouvait se permettre d'arrêter une femme. J'ai subi plusieurs interrogatoires. Et je suis même allée jusqu'à la cabine technique. Fort heureusement, le courant était coupé et ayant attendu une demi-heure, le chef de poste a ordonné que l'on me ramène dans ma cellule. On voulait me faire avouer ce que je ne savais pas. À mon avis, je n'ai jamais appartenu à un réseau quelconque. J'avais confiance en moi. Je savais que je n'avais jamais eu d'autres relations à part les relations du parti. Mais ils m'ont tellement torturé, tellement acculé que ils m'ont donné un papier qu'il fallait signer. Je vous avoue que j'ai signé le papier sans l'avoir lu parce que j'étais fatiguée.
Thierno Bas, ces témoignages de survivants, ils ne sont pas très nombreux et les survivants eux-mêmes vieillissent. C'est cette mémoire qui est en train de s'échapper et cette histoire que vous essayez de rattraper et de retenir sur le site du mémorial du Camboiro?
Oui, parce que il y a ce qu'on appelle en Guinée, il y a un slogan fréquent en Guinée qui parle du devoir de mémoire. Mais malheureusement, ce devoir de mémoire n'est pas exactement exécuté. Et ce qui conduit à un déficit de mémoire en ce qui concerne l'expérience vécue individuellement et comme le signale Mme Fatou Touré, que j'ai plus ou moins connue à Conakry. Une expérience douloureuse individuelle et collective. Au point que j'estime qu'il y a eu en Guinée, non pas simplement en violation des droits de l'homme au sens classique du terme, mais une sorte de politique génocidaire qui continue encore de frapper le pays, et ce qui se traduit par l'appauvrissement, la paupérisation au sens large du terme, c'est-à-dire matériel, intellectuel, culturel et politique.
Quand on va sur le site, ce mémorial du Camboiro que vous avez mis en place et qu'on trouve sur le web, on trouvera d'ailleurs le lien sur le site de l'Atelier des médias, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve notamment une liste des victimes. Vous avez pu faire la liste exhaustive de toutes les victimes?
Bon, j'ai organisé le site de façon à refléter les réalités de la politique répressive du régime, parce que quand on parle de violation des droits de l'homme, il y a toujours deux types d'acteurs en présence. Vous avez les perpétrateurs d'un côté, vous avez les victimes de l'autre. Donc, sur le site du mémorial Camboiro, je donne la liste des perpétrateurs et je donne aussi la liste partielle des victimes, parce que malheureusement, on n'a pas des archives élaborées en ce qui concerne la liste des victimes ou celle des perpétrateurs, Donc, ce qu'on a sur le site, c'est une liste, ce sont des listes indicatives, mais qui pallient au manque d'informations sur le camp Boaro, parce qu'il y a une volonté manifeste et systématique d'effacer les traces de la répression, les traces de la persécution politique qui a sévi en Guinée depuis 1958 jusqu'à ce jour.
Est-ce que les survivants, leurs familles, peuvent intervenir, vous contacter sur le site pour apporter des informations complémentaires concernant leurs parents qui peut-être ont disparu au camp Boaro?
Oui, le site est conçu de façon à être collégiale. L'initiative est individuelle, mais on espère que graduellement, il y aura cette participation de la part des familles des victimes. Donc, il y a une adresse e-mail qu'ils peuvent utiliser pour envoyer de la documentation supplémentaire concernant l'avis des victimes avant leur arrestation, pour permettre de refléter sur la toile l'image totale d'une personne comme Mme Fatou Touré qui vous a parlé dans l'interview, et des milliers d'autres personnes qui ont soit disparu au camp Boaro ou bien qui en sont ressorties, mais avec, disons une fois de plus, des traumas pour le reste de leur vie.
On trouve beaucoup de photos aussi de ces victimes.
Oui, il y a des photos. Heureusement, le régime qui se croyait graduellement éternel a publié des livres blancs dans lesquels ils ont affiché les victimes sur des photos saisies dans l'enceinte du camp Boaro. Donc, ces photos où la victime tient une ardoise sur laquelle le nom a été écrit à la craie blanche, ces photos sont donc sur le site, mais nous demandons aux familles de continuer à envoyer des informations visuelles et textuelles supplémentaires à celles que le régime a publiées sur les victimes qu'il avait ciblées.
On a discuté un petit peu avant cette émission, et ce qui m'a étonné, c'est que c'est une initiative individuelle, et aujourd'hui vous êtes seul techniquement à maintenir ce site.
Oui, techniquement et financièrement. Malheureusement, quand je parle de déficit d'information, il y a une sorte d'intériorisation de la dictature par les Guinéens qui banalise en quelque sorte la réalité carcérale du camp Boaro, ce qui se réfère sur le fait que, bon, pratiquement, il y a une seule personne qui maintient un site pour tout un pays. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des contributions majeures de la part d'anciennes victimes, à commencer par le français Jean-Paul Alata, le doyen des auteurs sur le camp Boaro, qui a écrit son premier livre « Prison d'Afrique » en 1975, si je ne me trompe. Jusqu'au plus récent livre, on trouve en total le texte complet de plus de 30 livres sur le site.
Alors, autre site dont un individu seul a décidé la création, un site lui aussi dédié à la mémoire, c'est celui que vous avez créé, Jean-Luc Ernst, bonjour.
Oui, bonjour, oui, exactement, c'est ça.
Vous êtes du côté de Liège, en Belgique,
oui,
et votre sujet à vous, c'est pas la Guinée, c'est le Congo, plus précisément Kisangani au Congo, ou même plutôt l'ancienne Stanleyville. Mais je vais laisser le soin à Cédric Kalonji de présenter votre site.
Oui.
Le site que j'ai vu, que je vois encore maintenant, c'est un site qui retrace des photos historiques, hein, de la ville de Kisangani, une ville que j'ai visitée d'ailleurs la dernière fois en 2007. Et on a des photos actuelles, on a des anciennes photos qui comparent les mêmes lieux et des fois des photos sur le même angle, mais plusieurs années après. Et on peut comparer pour voir comment les choses ont évolué, positivement ou négativement, par rapport à l'histoire de cette ville qui est la troisième ville congolaise.
Qu'est-ce qu'on trouve alors sur votre site, Jean-Luc Ernst?
Essentiellement des photos qui viennent de l'époque coloniale, comme Cédric l'a expliqué.
C'est une époque que vous avez connue là-bas, à Stanleyville?
Oui, c'est-à-dire que j'ai vécu là-bas quand j'étais tout enfant, et puis il y a 2 ans, je voulais savoir si la maison où j'avais habité existait toujours, et comme maintenant il y a les vues satellites de Kisangani, j'ai pu retrouver ma maison, et puis de fil en aiguille, le site s'est étoffé, Et j'ai fait un choix éditorial, si on peut dire, en décidant de montrer essentiellement des vues de bâtiments, ce qui d'ailleurs constitue en soi le corps d'une ville, et non pas de faire une collection de photos montrant des photos familiales avec papa, maman, les enfants, etc., puisque les photos familiales n'intéressent souvent que la famille ou les amis proches et pas les visiteurs étrangers du site.
Ça veut dire
intéressant pour tous les visiteurs.
Et ça veut dire, Jean-Luc Ernst, que vous avez dû faire appel à la fois à des Belges qui avaient des photos dans leurs archives de Kisangani ou de Stanleyville à l'époque et à des Congolais de Kisangani aujourd'hui pour faire ces comparaisons entre hier et aujourd'hui?
Oui, c'est ça. Le site est visité par les anciens coloniaux qui, eux, ont souvent eu l'occasion de faire des photos à l'époque coloniale. Donc, ils apportent tout à fait bénévolement toutes les photos qu'ils avaient réalisées. Quant à la diaspora congolaise, elle me donne un coup de main en facilitant divers contacts avec mes correspondants sur place et apporte même une contribution photographique lorsqu'ils font des déplacements à Kisangani.
Qu'est-ce que vous cherchez à faire maintenant? Quel est le but que vous cherchez à atteindre à travers ce site?
Mon site maintenant, il devient progressivement un état des lieux de la situation actuelle du parc immobilier et des infrastructures en général comme les routes, etc. Certains Congolais m'ont reproché d'ailleurs de montrer des ruines, mais c'est comme si on voulait casser le thermomètre parce qu'il montre la fièvre du client. Je pense qu'il faut à un moment donné faire une espèce de recensement qui doit servir à constituer des documents historiques utilisables aujourd'hui ou à moyen terme ou même par les historiens du futur. Je pense même que ça permettra, dans le cadre des chantiers de la République, de montrer ce qui a été fait par rapport à la situation à un moment donné. Et puis je constate d'ailleurs que ma démarche de collecte de documents à intérêt historique vient d'être approuvée par le président Kabila lui-même, puisque j'ai relevé que dans son message à la Nation du 2 juillet 2009, il a demandé qu'on reconstitue la mémoire collective du peuple congolais. C'est exactement ce que mon site réalise.
Faire revivre la mémoire et l'histoire à travers les blogs et à travers Internet, c'était notre sujet aujourd'hui, un sujet qu'on va prolonger avec vous, messieurs, si vous en êtes d'accord, dans le bonus de cette émission. En attendant, on peut retrouver les liens vers tous vos sites sur le site de l'Atelier des médias.
L'Atelier des médias.
The democratization of media, yes or no?
RFI. Avant de rejoindre Francis Pisani à San Francisco, un conseil ou une découverte pour bien bloguer avec Cédric Kalonji. Quel conseil cette semaine, Cédric?
Philippe, j'ai testé pour les blogueurs et plus particulièrement pour les membres de l'Atelier des médias un certain nombre d'extensions appelées communément plugins qui permettent d'insérer sur son blog des options. Et cette option que j'ai découverte et que j'ai testée permet aux visiteurs de faire un petit cadeau ou un petit don à l'auteur de leur blog préféré. Donc j'ai testé un certain nombre de plugins WordPress, c'est la plateforme que j'utilise. Et ces plugins permettent en 2 minutes d'insérer un petit formulaire sur lequel les visiteurs peuvent faire un don à partir de leur compte PayPal.
Alors PayPal, c'est un site qui permet de payer en ligne sans entrer à chaque fois le numéro de sa carte de crédit. Et ça marche comment, Cédric?
Très simple, Philippe. On installe l'extension, on insère un formulaire sur la page d'accueil avec la mention « donner » ou « faire un cadeau ». Les visiteurs peuvent alors choisir le montant qu'ils veulent envoyer. Cette somme arrive directement sur le compte du blogueur, mais déjà, il faut avoir un compte bancaire et puis un compte PayPal qui est gratuit, qui s'ouvre en 5 minutes.
Tu en as testé plusieurs, je crois. Lequel as-tu retenu et pourquoi est-il apparu meilleur que les autres?
Il y en a un que j'ai trouvé très bien, il s'appelle Donate Plus, et il propose un formulaire sur lequel les visiteurs peuvent, en plus de leur don, proposer un commentaire qu'ils souhaitent de voir ou pas affiché sur leur blog. Et les commentaires de donateurs peuvent être affichés sur une page. On peut avoir aussi une liste de donateurs et de savoir exactement combien a été donné. Et s'il y a un besoin, parce qu'il y a certains blogueurs qui le font, qui disent « voilà, j'ai besoin d'un appareil photo » et qui publient, et on peut voir combien on a déjà reçu et combien il manque. Et personnellement, j'ai installé ce plugin sur un de mes blogs et j'ai déjà reçu 38 euros alors que j'ai installé il y a 2 jours. C'est pas une fortune, mais c'est déjà pas mal.
C'est le début de la fortune. Merci Cédric Kalonji. Et puis à la semaine prochaine, on referme Mondoblog, mais ça continue sur le web.
Quand on veut dire ce qu'on a à dire, il n'y a plus de télévision. Mais si c'est moi qui dis ce que j'ai envie de dire, plus personne ne veut me donner la parole.
Today we'll show you the growing power of the internet. Digital journalism.
C'est simple, je clique sur ajouter un article. Si je veux mettre une photo, je clique sur mettre une image. Et je mets mettre en ligne l'article et l'article se met en ligne automatiquement.
Blogs, blog, blogueur, blog, pas de blog, blog.
Et je pense que grâce à Internet, on peut avoir cette proximité qui nous manquait un peu.
Bonjour Francis Pisani.
Bonjour Philippe Couve.
On se retrouve cette semaine en ligne de San Francisco où tu veux nous parler d'une idée assez choquante pour les journalistes traditionnels, une idée selon laquelle la transparence serait la nouvelle objectivité. Qu'est-ce que cela signifie ?
L'idée est de David Weinberger, un des vrais gourous du web. Elle est assez simple. Alors qu'un journaliste traditionnel croit que nous ne pouvons avoir confiance en lui que s'il ne nous dit pas quels sont ses choix politiques, nous n'avons confiance dans un blogueur que s'il nous dit d'où il vient, ce qu'il pense, pour qui il vote. La transparence est donc la nouvelle objectivité parce qu'elle permet de voir les sources de l'auteur et ses valeurs. Aujourd'hui, c'est de là que vient la confiance. Hier, l'objectivité du reporter nous donnait des raisons de croire en lui. Elle avait pour inconvénient de nous encourager à cesser de douter.
Est-ce que ça n'est pas là un renoncement à tout ce qui a fait la force des médias d'information traditionnels ?
Effectivement, nous avons cru que c'est ainsi que la connaissance fonctionnait, écrit Weinberger, alors que c'est seulement comme ça que le papier fonctionne. C'est le lien qui change tout. Et la transparence, qui est la capacité intégrée dans le texte ou dans l'image de voir plus loin que ce qui est publié, nous donne plus de raisons de croire un article que ne le faisait l'affirmation d'objectivité par le journaliste. Et si nous ne croyons pas, nous avons maintenant les outils pour vérifier. L'objectivité apparaît donc comme un mécanisme de confiance pour support sans lien, alors que maintenant, notre support, le web, en a. Ce que les journalistes doivent comprendre, et ça c'est très important, c'est qu'à l'heure du web, et je cite Weinberger, l'objectivité sans transparence ressemblera de plus en plus souvent à de l'arrogance.
Petite réflexion personnelle, je me demande si cette idéologie de la transparence peut être véritablement universelle. Est-ce qu'elle n'est pas typiquement américaine et protestante finalement ?
J'ai envie de te répondre que c'est comme la voiture, le train ou l'avion. Ils nous transportent, mais ils véhiculent aussi une idéologie qui devient plus la caractéristique d'une époque, d'une phase de notre évolution, que d'un pays, même celui où ils ont été produits en premier. Pour en revenir au web, on peut mettre des liens sur des documents publiés, aussi bien en Chine qu'en Europe, et les gens savent cliquer dessus, comprennent ce que ça veut dire. L'absence de lien nous oblige à croire ce que disent les institutions. Ces dernières hésitent à en mettre car elles savent bien qu'elles perdent ainsi une partie de leur pouvoir. Mais ce qu'elles doivent comprendre, c'est qu'elles perdent aussi notre confiance. Ce qui est intéressant aux États-Unis aujourd'hui, c'est la recherche de nouvelles formes de pouvoir qui passent par la transparence, rendue possible par la technologie et dont il reste à voir jusqu'à quel point elles sont plus démocratiques.
La transparence, nouvelle valeur phare du journalisme, sujet à débattre, si on veut. Sur le blog de Francis Pisani, par exemple, qui chronique quotidiennement les évolutions, révolutions de la société numérique. Et le blog, c'est Transnet, Transnet au pluriel. À la semaine prochaine, Francis.
À la semaine prochaine, Philippe.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias. http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 90 de l'Atelier des médias proposée par Philippe Couve et Guillaume Ploquin avec Cyril Etienne à la technique. On attend maintenant vos commentaires sur notre site parce que quand c'est fini ici, ça continue sur le web. Vous tapez Atelier des médias dans votre moteur de recherche et vous arrivez chez nous. Salut à tous, à la semaine prochaine.